Jeux vidéo, actualité de vos jeux préférés.
Salut à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 19 avril 2018, vous écoutez Ivason Studio, bienvenue dans Jeux vidéo, votre émission qui parle d'actualité des jeux vidéo. Je suis Jake et je suis toujours accompagné de Yakipon.
Et salut.
Au sommaire cette semaine, on va parler de League of Legends et de son patch 8.8, StarCraft 2 nous apporte des nouvelles, Overwatch également, Dark Souls Remastered qui a des mauvaises nouvelles et bien sûr, on a quelques news de Sega et ça c'est beaucoup plus intéressant. Et on terminera avec les sorties jeux vidéo de la semaine. Commençons donc par les mauvaises nouvelles, hein, donc les news de Dark Souls Remastered. Il devait sortir fin mai prochain sur les consoles, avec la version Switch également, mais celle-ci est repoussée à plus tard durant l'été. Il devait faire aussi un test réseau du jeu sur la console, donc une bêta hein, en gros si vous préférez. C'est aussi repoussé à beaucoup plus tard, ça avait été annoncé lors du dernier Nintendo Direct. On sait pas trop pourquoi. On se doute hein, que les développeurs font face à des difficultés sur le hardware. Hein. Les performances de la Switch ne sont clairement pas celles d'une PS4 ou d'une Xbox One. Ces difficultés, à mon sens, étaient prévisibles. Donc je suis pas tellement surpris que la sortie de Dark Souls Remaster sur Switch soit annoncée. Mais ça fait chier pour les fans qui l'attendaient sur la console et qui ne possèdent pas les autres plateformes. Voilà. Donc affaire à suivre. Restons sur la Switch justement, parlons d'un jeu indépendant qu'on connaît très bien ici chez Ivason Studio. Il s'agit de Nihilumbra, que Yakipon avait fait en let's play vidéo, hein. Vous pouvez vous en souvenir, hein. Vous vous en souvenez, oui, non, bon. Vous pouvez retrouver donc ces let's play sur notre YouTube, on les avait fait il y a quelques temps maintenant. Bref, après son petit succès sur Steam, Nihilumbra arrive sur l'eShop de la Switch. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'occasion de se plonger dans cet univers plutôt sombre, il faut le dire, mais très poétique, avec une certaine morale entre la vie et la mort. Voilà, bon, enfin, c'est un jeu qui mêle la plateforme, la réflexion, le sens de l'observation, tout ça. C'est un jeu qu'on a beaucoup aimé, en tout cas. Concernant les news de Sega, et oui, ces derniers jours, on a eu un petit lot d'actualités hein, concernant Sega, vu qu'il y a eu son festival annuel, le Sega FES 2018 au Japon. On y apprend que le label Sega Age, qui est déjà connu depuis longtemps sur d'autres consoles, arrive enfin sur la Switch, du moins dans les mois à venir. Ce qui va nous permettre de jouer à une quinzaine de jeux classiques de la Master System et de la Mega Drive, avec notamment déjà annoncé pour la Switch, Sonic the Hedgehog, on va pas le représenter, hein, Phantasy Star et Thunder Force 4 dans des versions restaurées. Voilà, il y aura une quinzaine de jeux, on ne connaît pas la liste complète, on a déjà cela sûr et certain. La rumeur veut que les autres consoles Sega de l'époque arrivent aussi sur l'eShop de la Switch, enfin en tout cas les jeux de l'époque, donc pareil, affaire à suivre, mais c'est quand même une bonne nouvelle. Et tant qu'on est chez Sega, on y reste. La grosse nouvelle de la semaine, surprenant d'ailleurs, c'est l'annonce d'une Sega Mega Drive Mini, éditée directement par Sega et pas par un tiers. Ça devrait sortir pour fêter le 30e anniversaire de la console mère. Et oui, 30 ans, hein, ça ne nous rajeunit pas tout ça. La Sega Mega Drive Mini est donc annoncée pour le moment uniquement au Japon pour la fin 2018, mais on se doute très bien qu'elle débarquera aussi chez nous par la suite. Comme dirait l'autre, shut up and take my money, hein, parce que là c'est qu'une affaire de pognon au final. Et maintenant, parlons des grosses news, hein, League of Legends et son patch 8.8.
Alors oui, comme tu dis, gros patch. Et on va parler évidemment du point le plus important de ce patch, qui est une mise à jour de LeBlanc. Alors oui, certes, en ce moment, les assassins, c'est plus trop ça sur League of Legends, et c'est plutôt les ADC qui sont un peu mis en avant. Mais ça, chaque saison, de toute façon, on a un souci. C'est soit c'est les tanks, soit c'est les junglers, soit c'est les ADC, enfin, soit c'est les assassins au mid. Non bon, la rotation se fait petit à petit, et c'est d'équilibré, c'est leur problème. Juste pour dire que la mise à jour de LeBlanc, en fait, je sais même pas si c'est une vraie mise à jour, moi j'appellerais ça plutôt un retour aux sources. C'est-à-dire qu'ils ont compris que leur ancienne modification de LeBlanc était pas bonne, et donc ils reviennent sur des choses, on va dire, qu'on connaissait avant. Tout d'abord, il y a le sceau de la malveillance, le A, qui remarque les ennemis à nouveau pour faire plus de dégâts. C'est vraiment une mécanique qu'on avait avant. Bon, je sais pas s'il y a des nouveaux joueurs maintenant qui vont dire « Ah, mais c'est trop bien ce qu'ils font en tout. » Ben, en fait, c'était ce qu'il y avait avant, les petits jeunes là de League of Legends. Hein. Donc, retour aux sources concernant le A. Concernant son Z, un équilibrage assez conséquent de ses dégâts et de son ratio de puissance, aussi de son délai de récupération, mais aussi de délai de réactivation qui est un peu plus, qui va être beaucoup plus rapide. Donc, les Leblancs pourront devenir beaucoup plus rapides, beaucoup plus réactives aussi. Eh ben, moi, je dis juste que ça fait plaisir parce que ben, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu des Leblancs et comme c'est un personnage que j'aime beaucoup, qui a un gros potentiel, très bien joué évidemment, donc je suis plutôt content. Il y a une mise à jour aussi de son ulti qui ben, revient sur l'ancien Leblanc. C'est-à-dire que dès que vous appuyez sur R, en fait, vous imitez l'ancien sort que vous avez lancé. En ce moment, j'ai peur de dire une bêtise, mais je crois que ça fait juste apparaître un double de Leblanc qui lance le sort précédent. Ou alors, faut le choisir. Je crois que c'est un peu plus bordélique. Bon, en soi, c'était pas forcément très très sympathique à exécuter. Là maintenant, c'est vous appuyez sur R, vous rebalancez le sort que vous avez fait avant. Niveau dégâts, ça sera beaucoup plus rapide et donc un burst un peu plus conséquent de la part de Leblanc. On a aussi d'autres modifications, surtout aussi sur Ahri. Ahri qui a une mise à jour de sa compétence passive qui dit que maintenant, si Ahri touche deux fois un champion ennemi avec ses sorts en moins de 1,5 secondes, elle gagne 20% de vitesse de déplacement pendant 3 secondes. Évidemment, le A ne donne plus de vitesse de déplacement vu que c'est passé sur la passive, mais par contre, on a le vol de vie qui passe sur le A. C'est-à-dire que lorsqu'Ahri touche 9 fois des ennemis avec ses sorts, 3 fois par sort au maximum, ça reste inchangé, elle reçoit vol essentiel qui permet à son prochain A de la soigner de certains points de vie, à l'impact. Donc oui, petit changement donc concernant Ahri, c'est qu'il change la passive, il la met ailleurs, et il change la passive du A, et il la met ailleurs. Rien de bien transcendant. Juste petit aussi équilibrage de ses lucioles. Maintenant, les lucioles attaqueront en priorité le champion ennemi affecté par charme. C'est plutôt une bonne chose, parce que généralement, les gens que vous charmez, ben, c'est pas les tanks, c'est pas les gros tons, et c'est plutôt des gens qui sont un peu fragiles. Donc ça permet de cibler le burst sur la personne ben, que vous voulez tuer, et pas forcément le tank. Petit équilibrage aussi de Irelia, qui reçoit 2-3 up. Sur les stats de base, elle gagne un peu plus d'armure, le rush final, elle fait un peu plus de dégâts aux sbires. Le duo parfait, ben, il y a un petit correctif de bug, parce que avant, il y avait l'élimination de plusieurs sbires, et ça ne donnait pas à Irelia tout ce qu'elle voulait. Et le R, évidemment, qui est nerfé, parce que c'était quand même un très gros sort qui faisait beaucoup trop de dégâts. On a des correctifs concernant Azir, Brom, 2-3 petits nerfs, hein, par-ci par-là. Galio, qui a un petit nerf concernant son ulti. Graves, qui voit ses stats de croissance en PV augmenter, et le délai de récupération de son ulti qui est baissé, donc petit up du monsieur. Kai'Sa, quant à elle, se fait un petit peu nerfer, surtout sur son A, vu que c'est un petit peu fort la pluie d'Ikatia sur une seule cible, donc ils ont décidé de baisser un petit peu les dégâts. Lissandra, par contre, se fait un petit peu up, c'est-à-dire que son éclat de glace lui prend moins de mana, ce qui est plutôt sympa parce que Lissandra, c'est quand même un personnage qui mange le mana. Le tombeau polaire aussi bah, se fait, on va dire, équilibré, c'est-à-dire que vous pouvez avoir l'ulti plus vite sur les premiers niveaux, mais ça reste inchangé sur les derniers. Le Nautilus, il a un délai de récupération moindre sur son A, donc c'est plutôt sympa. Sion, par contre, son A, il y a un petit souci, c'est-à-dire que le ratio de dégâts baisse au premier niveau, mais reste inchangé à la fin. Et les dégâts du A pleinement chargé sont baissés aussi au premier niveau. Mais par contre, les dégâts de base sont augmentés. Bon, c'est un équilibrage, mais je pense qu'on peut compter ça quand même comme un nerf. Talia aussi a un délai de récupération de son A qui est augmenté, donc petit nerf pour la madame. Vi, qui a 2-3 changements aussi, c'est-à-dire que son armure de base est baissée, ses stats de croissance en armure par contre sont augmentés, la régène de PV est augmentée, les stats de croissance en régène de PV est augmentée aussi. Donc, un petit buff, on va dire, du personnage en tant que tel. C'est-à-dire que ben, elle regagnera un peu plus de points de vie, elle en aura aussi de base. Le délai de récupération de son bouclier anti-choc de sa passive est baissé, c'est-à-dire qu'au lieu de 16 secondes, ça passe à 12, donc c'est plutôt intéressant. Le brise-coffre, le délai de récupération passe de 16 à 12 sur le premier niveau, mais reste inchangé sur les niveaux finaux. Donc bon, petit équilibrage et ça donne à Vi un peu plus d'interaction. Et sont eux qui lui prend un peu moins de mana. Voilà. Bon, il reste encore 2-3 petits points sur Zaya, Rek'Sai et Swain, mais ce sont des mises à jour et généralement, bon, il n'y a pas grand-chose de notable. Dernière petite nouvelle concernant League of Legends, nous allons avoir des nouveaux coffres qui s'appellent les coffres d'apparat. Vite fait, c'est juste des coffres qui permettront de choper des skins, des essences oranges, des émotes permanentes, ou alors vraiment des fragments de skins et plus des essences. Ce sera avec des taux de loot assez intéressants. On pourra toujours avoir des gemmes, ou alors un coffre bonus avec une clé dedans. Donc des coffres, on va dire, assez sympathiques. Overwatch, on a deux petites nouvelles, donc vous savez que le mode représailles est sorti, nous vous en avons fait la description la semaine dernière. Donc avec cette sortie de mise à jour, nous avons un petit patch concernant un équilibrage. Donc on a deux héros qui sont nerfés. Eh bien, contre toute attente, il s'agit de D.Va. Les micro-missiles font moins de dégâts, et le turbopropulseur font moins de dégâts aussi. Et aussi Zenyatta. Là par contre, je suis pas très content. Zenyatta, ce qu'ils ont fait, c'est que son tir secondaire chargé, c'est-à-dire dès que vous chargez les boules et que vous laissez... que vous les lancez sur une personne, la cadence de tir est diminuée de 15%. Alors déjà que je trouvais ce truc assez long, eh ben là, c'est un peu plus relou. Par contre, pour les personnages qui sont buffés, nous parlons de Mei. C'est quelque chose qui traînait pendant un moment, bon maintenant c'est fait. Mei peut maintenant congeler plusieurs personnes à la fois avec son tir principal. C'est le rayon, en fait, maintenant, traverse les ennemis. Donc oui, Mei risque d'avoir beaucoup plus d'impact maintenant dans les games, et j'espère que les gens ne continueront pas de troll avec elle et avec sa saloperie de mur en début de partie. Il y a un boost aussi de Faucheur, qui est vraiment, ben, je trouve, assez conséquent et plutôt cool. Après son ulti, Faucheur aura ses armes pleines. Souvent, ce que les gens faisaient, c'est qu'ils tiraient avec ses fusils, et dès qu'il restait 2-3 balles, bon, ben, ils essayaient de tout mettre. Et après, ils ultient. Mais sauf qu'ils se retrouvent dans une phase où ils doivent recharger. Ce qui est pas forcément super adéquat, surtout que ben l'éclosion mortelle, on sait tous que c'est bim-bam-boum, on vide tout. Donc maintenant, à l'issue de son ultime, Faucheur pourra avoir ses armes rechargées, c'est plutôt sympa. La forme spectrale aussi est buffée. Le bonus de vitesse de déplacement passe de 25% à 50%, ce qui est plutôt cool en soi. Et on peut annuler à tout moment la forme spectrale en pressant la touche de la capacité ou de tir. Donc c'est plutôt cool pour pouvoir esquiver juste un tir ou une capacité et revenir très vite en tirant sur les gens. Donc franchement, un petit lob de Faucheur est complètement mérité. Donc je trouve ça vraiment bien. Concernant Overwatch aussi, alors on a eu une nouvelle assez perturbante, je dirais, vu qu'on a une nouvelle saison compétitive en mode élimination 6v6. Alors je pense que les gens sont partagés, c'est-à-dire que le mode en soi peut être intéressant. Le fait qu'ils fassent de la classer là-dessus peut peut-être donner envie aux gens de se surpasser, il n'y a pas de souci. Par contre, ce qui me plaît pas du tout, c'est le fait que si vous avez un troll, bon ça peut arriver dans toutes les games, mais si vous avez un troll sur ce mode de jeu précisément, ça va être très difficile de contrebalancer. Alors que si vous avez un troll en classé, on va dire classique, normal, vous pouvez toujours essayer de contrebalancer et vous en sortir. Là, ça va être une horreur, en fait. Ça va être insupportable. J'espère vraiment que leur système de classement va bien fonctionner, parce que si vous tombez pas avec des alliés qui valent le coup, quoi, ça risque d'être compliqué à vivre, hein. Pour terminer, on reste sur du Blizzard, on va parler de StarCraft 2. Oui, on a des petites nouvelles, et puis un gros, mais alors gros patch d'équilibrage. C'est juste en fait que, pour l'explication du patch, les héros, on va dire, classiques du jeu, ne sont pas forcément foufou à jouer, et évidemment, les héros payants sont beaucoup plus fun. Bon, soit. Sauf que là, ils se sont dit, bon, nos héros sont quand même nuls à chier ce qu'on vous donne gratuitement, donc on va essayer de les augmenter, parce que ils voyaient aussi que le ratio de réussite de mission avec ces personnages-là était beaucoup plus faible qu'avec les autres. Donc on se retrouve avec des gros changements concernant Artanis. Je pense que toutes les unités et tout ce qui fonctionnait avec Artanis a été refait pour donner beaucoup plus de boucliers, vu qu'Artanis, c'est un peu un personnage un peu défensif sur ce jeu-là. Mirahan et Emma Turner ont juste une nouvelle fonctionnalité, c'est-à-dire que la capacité saut tactique des unités de Horner ne nécessite plus la vision de la zone ciblée, ce qui est plutôt cool. On va pouvoir enfin scout comme on le désire. Petit changement, mais alors rapide, de Karax. Les dégâts de base du Mirage sont augmentés de 5, à 7, pardon, avant c'était à 5. Raynor aussi se fait complètement changer niveau dégâts, hein, il se fait complètement EP, vu que ben c'était pas ouf non plus, hein, comme personnage à jouer Raynor. Swan aussi, par contre, grosse modification, vu que Swan était vraiment, enfin moi je trouve le personnage est vraiment très bon, mais malheureusement, bon ben, il avait pas forcément beaucoup d'impact, sachant que il donnait du Vespen à l'autre personne et puis c'était tout, quoi. Il y avait la tourelle qui faisait tout toute seule, et malheureusement, bon ben, c'était pas le gameplay le plus amusant, surtout quand on voit les nouveaux personnages payants qui sont arrivés, quoi. Donc on a pas mal de dégâts en plus sur nos deux amis Terran et sur Artanis. C'est plutôt fun, enfin, j'espère que ça enlèvera le fait que c'était des personnages qui étaient chiants à jouer, et surtout chiants à monter. Après, évidemment, il y a des correctifs de bugs un peu sur à peu près tout le monde, et évidemment, des petits changements sur le mode JCJ. La décélération du vigilant et de l'observateur ne retarde plus l'activation des capacités vigilance et mode surveillance. Ça, c'est pour nos amis Zerg. C'était, je l'accorde, un petit peu relou. C'est sympa qu'ils nous le modifient. Après avoir lancé une bombe parasitaire sur la même cible plusieurs fois, l'effet lumineux s'affiche désormais correctement et ne disparaît plus prématurément. Là aussi, on reste sur des Zerg et sur l'infestateur. L'infestateur qui pouvait prendre possession des gens tranquillement. Et au bout d'un moment, ça devenait presque illisible. Donc là aussi, merci du correctif. Et enfin, le lancement du parasite neural sur une vipère ayant posé une bombe parasitaire n'entraîne plus de changement d'apparence et d'appartenance de l'effet de la bombe. Il y avait vraiment des soucis concernant la vipère. Bon, c'est corrigé, tant mieux.
Passons donc aux sorties jeux vidéo de la semaine.
Mardi 17 avril est sorti sur PS4 Yakuza 6 The Song of Life. Ce jeu d'aventure en mode ouvert vous permet de retrouver Kazuma, qui va essayer de trouver les réponses à l'agression de Haruka et donc se rendre à Hiroshima pour cela. Mais c'était sans compter des problèmes qui refont surface au sein du clan Tojo.
Aujourd'hui, jeudi 19 avril, sur la Switch, Break Hard for Losers, un jeu de course arcade old school, en solo multi jusqu'à 8 joueurs, déjà dispo sur Steam. Venez vivre des courses endiablées avec des véhicules quasi incontrôlables car ils n'ont pas de frein. C'est un jeu bien barré, français et du studio Oulidon de Montpellier. On soutient donc la création locale.
Ce même jour, sur Switch aussi, Neo Atlas 1469. L'histoire se passe au 15e siècle, où les hommes ne possèdent que peu de savoir sur ce à quoi peut ressembler le monde. On y incarne donc un commerçant qui navigue sur les mers, en ayant l'objectif de cartographier le monde en écoutant les rapports de vos amiraux.
Demain vendredi 20 avril sur PS4, God of War. Dans ce nouvel épisode de la série, on évolue dans un monde aux teintes nordiques, très montagneux, très forestier. Dans cette histoire, un enfant nous accompagne et apprend de nos propres actions. A noter que ce jeu annoncé en 2016 est encore plus beau maintenant que lors des images de présentation de l'époque. En général, les jeux nous présentent des images beaucoup trop belles en salon, ils sont faits sur des moteurs graphiques différents, pour ensuite optimiser le jeu et donc baisser le rendu visuel à la sortie du jeu. C'est absolument pas le cas ici pour God of War, c'est le contraire qui se passe car le jeu a subi un magnifique upgrade visuel. C'est impressionnant à voir, époustouflant, je vous invite à aller voir les vidéos et les images sur le net.
Pour terminer, c'est sorti jeux vidéo toujours demain, vendredi 20 avril sur Switch par contre, The Way Remastered, un jeu de logique plateforme en 2D inspiré de classiques comme Another World. On incarne un membre d'une équipe d'explorateurs de l'espace qui n'accepte pas la mort de sa femme, et qui après avoir découvert des écritures anciennes sur l'existence éternelle, va explorer la planète pour tenter de ramener à la vie sa bien-aimée.
Voilà pour cette semaine, on se retrouve très vite dans d'autres programmes Diversion Studio, vous connaissez la chanson, hein, c'est sur le site, et la semaine prochaine, on revient avec l'émission Jeux vidéo. A très vite tout le monde.
Ciao.
Réécoutez ce programme en podcast sur notre site ivasandstudio.com.